C'est le tube.
Ouais.
Bonjour à chacune et à chacun. Jephté et Ouza. Deux noms, deux histoires, deux portraits que rien a priori ne lie ou ne rapproche. Deux récits cependant qui dérangent et traînent avec eux un parfum amer. Jephté, tout d'abord. Ce récit se trouve dans le livre des Juges. Un certain Galaad avait eu plusieurs enfants, plusieurs fils, avec sa femme, mais il avait aussi engendré un autre fils avec une prostituée. On le nomma Jephté. Les années passant, les fils légitimes de Galaad refusèrent que leur demi-frère adultérin prenne part au patrimoine familial. Or, ce Jephté était devenu un vaillant guerrier. Vaillant, mais à la tête d'une troupe de vauriens. Le texte dit, à propos de cette troupe, des hommes de rien qui allaient et venaient. Mais voilà que les Ammonites déclarent la guerre à Israël. Toute la fratrie de Jephté vint le trouver pour lui dire « Sois notre capitaine et chassons ensemble les Ammonites de notre pays. » Juges chapitre 11, verset 9, Jephté répondit « Si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites et que le Seigneur les livre devant moi, je serai votre chef. » Plus loin, alors que notre héros invoque Dieu pour être juge entre les Israélites et les Ammonites, toujours dans ce même chapitre 11, au verset 27 à 29, nous lisons « Alors, le souffle du Seigneur fut sur Jephté. Comme il se plaçait en ordre de combat, il fit un vœu au Seigneur et dit, là nous sommes au verset 30, « Si vraiment tu me livres les Ammonites, écoutez bien, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre lorsque je reviendrai victorieux sera pour le Seigneur et je l'offrirai en holocauste. » Verset 34 et suivant. Jephté infligea une très grande défaite aux Ammonites. Comme il revenait chez lui, sa fille, son unique enfant, sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu m'accables ! Je me suis engagé devant le Seigneur et ne peux revenir en arrière !» Elle lui dit « Père, tu t'es engagé avec le Seigneur. Agis envers moi selon ton engagement, mais laisse-moi un délai de 2 mois pour aller pleurer ma virginité sur la montagne avec mes compagnes. » Il la laissa partir 2 mois. Verset 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il s'acquitta sur elle du vœu qu'il avait fait. Deuxième histoire, Ouza. Cette histoire est racontée 2 fois dans l'Ancien Testament, soit dans le deuxième chapitre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 6, soit dans le premier livre des Chroniques au chapitre 13. David décida de ramener à Jérusalem le coffre de Dieu sur lequel est invoqué le nom du Seigneur des armées. Pour cela, ils chargèrent le coffre de Dieu sur un char neuf, Ouza, O-U-Z-A, et Aïo, A-H-I-O, conduisait le char neuf. Verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent à l'aire de Nakhon, Uzza étendit la main vers le coffre de Dieu pour le saisir parce que les bœufs avaient glissé. Le Seigneur se mit en colère contre Uzza et l'abattit à cause de son insolence. Uzza mourut là, près de l'arche de l'Alliance. David se fâcha. Pour la traduction de ce verbe « se fâcha », nous voyons que le mot peut être traduit aussi par « David fut consterné ». Il fut contrarié. David fut attristé ou désolé. Telles sont, dans l'Ancien Testament, les histoires de Jephté et de Uzza. Le premier, libérateur d'Israël grâce au souffle de Dieu, finit par égorger sa fille et la couper en morceaux pour l'offrir en holocauste. Le deuxième, Uzza, voyant que les bœufs ont bronché et craignant que l'arche de l'Alliance ne se renverse, soutient, tend la main pour en éviter la chute. Alors, notre réaction spontanée est la suivante. Comment se peut-il que des histoires aussi sordides figurent dans la parole de Dieu? Pourquoi le Seigneur accepte-t-il l'infâme holocauste du premier? Et pourquoi punit-il de mort le second alors que de bonne foi, il intervient pour éviter le pire? Nous allons essayer de creuser, de déblayer tout ça pour tenter de clarifier notre approche et surtout recadrer la spontanéité de notre réaction. Grand A, Jephté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ouvre une parenthèse pour dire que cette tragédie, non pas grecque mais juive, a inspiré à George Friedrich Händel un de ses plus beaux oratorios. Si vous avez l'occasion, ne vous privez pas du bonheur de l'écouter. Fermons la parenthèse. La dernière phrase du livre des Juges résume à elle toute seule le caractère anarchique de cette époque. Nous lisons « En ces temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Tout est dit. Toujours dans ce texte, nous lisons encore ceci. Après la mort de Josué, se leva une génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir des Baals, c'est-à-dire des idoles, à suivre d'autres dieux d'entre les peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils se prostituaient avec d'autres dieux. Ils abandonnèrent le Seigneur. Le Seigneur se mit en colère contre Israël et le livra à des pillards. Il les vendit à des ennemis qui les entouraient. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, il était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant les jours du juge, car le Seigneur avait du regret à cause de leurs soupirs. Mais à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir plus que leur père. Nous le voyons, le peuple d'Israël s'était détourné du Seigneur et vivait en plein chaos mystique avec des élans de foi déviés, anarchiques, impurs. Dans le cœur de chacun, le sacré côtoyait le sacrilège et l'idolâtrie la plus noire tutoyait insolemment la gloire toute puissante d'un Dieu résolument bafoué. C'est sans doute pourquoi, dans cet inextricable désordre, les sacrifices humains prônés par les païens pouvaient être ou se voir être pratiqués par les Israélites dans un culte sacrilège et iconoclaste que l'on prétendait rendre à l'Éternel Dieu. Telle était la foi de Jephté, mêlée, impure et dévoyée. Mais ce n'est pas tout. Le second aspect que nous voulons souligner ici sur la personnalité de ce chef de bande peu recommandable est le suivant. Jephté aime les si. Il aime mettre sous condition. Jephté aime le pouvoir. Et de même que très préemptoirement il avait posé, ou plus exactement imposé, ses conditions à ses frères, d'égal à égal, eh bien il traite avec Dieu. Si tu me livres les Ammonites, quiconque sortira de la porte de ma maison sera offert un holocauste. Voilà un si de trop. Un si qui va avoir des conséquences dramatiques. Il faut tout de suite ôter une ambiguïté. Dieu n'avait pas donné son souffle à Jephté pour obtenir de lui le sacrifice de sa fille. Dieu a donné son souffle à Jephté pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Il n'y a aucun lien entre la compassion d'un Dieu qui entend les soupirs de son peuple et le vœu stupide, imbécile, le vœu imbu de soi-même du très arrogant Jephté. Il est par ailleurs capital de noter que le si des conditions imposées, dès le si des conditions imposées, toute mention de Dieu disparaît dans le texte. Dieu est absent à partir de ce moment-là. Voici encore deux passages de l'Ancien Testament qui recadrent clairement les choses. Deutéronome 12, verset 30. Nous lisons ceci à propos des nations conquises par Israël. Dieu dit, tu n'agiras pas ainsi à l'égard du Seigneur ton Dieu, car elles, les nations conquises, car elles font pour leur Dieu toutes sortes d'abominations que le Seigneur déteste, allant jusqu'à jeter au feu leurs fils et leurs filles. La deuxième référence se trouve dans le psaume 106. Ce psaume 106 parcourt toute l'épopée du peuple d'Israël et il dit au verset 35, ils, les Israélites, se sont mêlés aux nations, ils ont servi leur idole et ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Aux démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles. Aussi le Seigneur s'est mis en colère et a pris en abomination leur patrimoine. Vous le voyez ? À la lumière de ces textes, plus aucune confusion, plus aucun amalgame de compréhension n'est possible. Quelques mots encore avant d'aborder notre deuxième histoire, celle de Ouza. Mettons brièvement en tête à tête, en vis-à-vis, en frontalité, les si de Jephté avec les si de notre personnage de l'Ancien Testament. Il s'agit d'Anne, la stérile, vous savez, Anne, qui se rend à Silo pour prier le Seigneur dans le temple. Dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 11, elle supplie le Seigneur en disant, « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » Là, ce n'est pas une mort qui est proposée, mais le don d'une vie consacrée. Le si arrogant de Jephté engendrera une plaie ou la plaie incurable de l'accablement. Les si pleins de déférence d'âme engendreront un magnifique chant qui dit « Mon cœur exulte pour le Seigneur, je me réjouis de ton salut. » Quatre proverbes pour en terminer avec ce long premier chapitre. Premier proverbe, dans proverbe chapitre 11, on est en sécurité quand on se méfie des engagements. Chapitre 17, celui qui est dépourvu de raison prend des engagements et se porte garant pour le prochain. Chapitre 6, si tu t'es engagé pour un autre, si tu es enlacé par le discours de ta bouche, dégage-toi. Et enfin, mon préféré, chapitre 17, quand tu pilerais l'imbécile dans un mortier avec un pilon au milieu des grains, son imbécilité ne se séparerait pas de lui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Jephté. C'était le grand A. Grand B, Ouza. Alors que l'engagement du précédent fait payer le prix à l'autre, les conséquences du geste de Ouza retombent sur lui-même. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, l'histoire est mortifère. Pourquoi ici punir de mort un homme aussi dévoué et porté par autant de bonne volonté? Comme nous l'avons fait précédemment, nous allons resituer un peu ce récit dans son contexte pour y voir un peu plus clair. Si l'on remonte au tout début, dès la fabrication de l'arche, Dieu avait ordonné qu'elle soit placée derrière un voile. Exode 26, 33, verset 33, « Le voile constituera pour vous la séparation entre le sacré et le très sacré. » Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que seul le grand prêtre, le souverain sacrificateur, pouvait une fois par an entrer dans le très sacré. Encore fallait-il pour cela qu'il eût été à l'avance, qu'il ait reçu à l'avance l'onction d'huile, mais il devait être revêtu des vêtements sacrés, ne pas avoir les cheveux défaits et avoir versé du sang pour lui-même. Le récit de Ouza nous précise bien que c'était sur ce coffre qu'était invoqué le nom, c'est-à-dire l'indicible identité du Dieu trois fois saint. Mais au fait, nous n'avons pas précisé ceci. Le texte que nous lisons commence par « David décida de ramener le coffre à Jérusalem ». Mais le ramener d'où ? Où était-il passé avant d'être ramené, ce coffre-là ? Eh bien, figurez-vous qu'il avait été volé, il avait été dérobé par les Philistins, qu'il avait momentanément, nous allons voir comment ça s'est passé, qu'il avait momentanément ramené chez lui. Or, voilà ce que dit le chapitre 5 du premier livre de Samuel à propos du séjour de l'Arche de l'Alliance, du coffre sacré, chez les Philistins. Ce fut une panique terrible. Dieu frappa les gens du plus petit jusqu'au plus grand. Dans toute la ville, c'était une panique de mort. Ceux qui ne mourraient pas étaient atteints de tumeurs aux hémorroïdes et les appels au secours montaient jusqu'au ciel. Lorsque les Philistins font la relation de cause à effet entre leurs maux et la présence du coffre, ou inversement, ils font tout pour s'en débarrasser. Et nous lisons de façon un peu anecdotique, mais quand même, lorsqu'ils arrivèrent au lieu de Beth-Shemesh, 70 hommes furent frappés par le Seigneur parce qu'ils avaient regardé le coffre. Comme tout un chacun, notre brave Ouza n'était pas censé ignorer tout ça. Mais, selon toute évidence, il n'en avait pas tiré le son. Les bœufs trébuchent, le char vacille dangereusement, Et sans plus réfléchir, il tend la main pour retenir l'arche de Dieu, comme s'il se fût agi d'un vulgaire paquet, d'un vulgaire colis. De bonne foi, sans malice, spontanément, Ouza se pose un indispensable. Et il est tellement persuadé de lui, persuadé que son geste va retenir la sainte identité de Dieu avant qu'elle ne se brise en tombant. Telle est la très humaine version de Ouza. Mais telle n'est pas la version du Dieu trois fois saint. Pour le Seigneur, l'Éternel des armées, il s'agit d'un sacrilège absolu, d'un blasphème, d'une insolence, nous dit le texte, en tout cas d'une profanation avérée. Faisons ici quatre rappels. Premier rappel, la bonne foi, le manque de malice et la bonne volonté n'exonèrent ni de dédouane pas de la crainte de Dieu. Deuxième rappel, Dieu n'a jamais conféré aux humains la mission de lui éviter d'éventuelles chutes. Dit autrement, et c'est le troisième rappel, Dieu n'a besoin de la protection de personne. Et quatrième rappel, Dieu ne tombe pas. Revenons à notre récit. Il y a un grand absent dans cette deuxième histoire. Un absent présent, pourrait-on dire. Quelqu'un qui est à ce point discret qu'on a tout fait de l'oublier complètement. C'est Aïo, le compagnon de voyage. Promu, désigné au même titre que Ouza. Aïo, lui aussi, accompagna le char. Alors nous ne disposons d'aucun détail particulier le concernant, ce qui fait que nous n'en sommes réduits qu'à de très, très prudentes suppositions. Le texte dit simplement « Aïo marchait devant le char ». Enfin, ça ne l'a pas empêché de se rendre compte que les bœufs étaient en difficulté, et pourtant, il n'intervient pas. Peut-être, avait-il à l'esprit la dimension très sainte et très sacrée du coffre sur lequel était invoqué le nom. Et peut-être beaucoup plus simplement, ne s'estimait-il pas indispensable. Alors cette faute d'éléments, cet aïeau nous paraît sans relief, un peu fadasse, pas très efficace ou réactif. Mais enfin, des deux compagnons, c'est lui seul qui a assisté, sans doute pris part, à la joie, la liesse, la fête, l'exultation populaire qui ont accompagné l'entrée du coffre dans Jérusalem. Aïo. Pour désigner ce genre de personnage, le théâtre a une expression très connotée. On appelle ça des anti-héros. Aïo est un anti-héros. Notre grand A était consacré à Jephté. Notre grand B était consacré à Ouza. Et si on parlait un peu de nous dans le grand C ? Grand C, nous. Que faisons-nous du très sacré ? Quelle conception en avons-nous ? Comment considérons-nous la sainteté de Dieu ? Quelle est dans notre vie de chrétien et de chrétienne la place réelle, effective, qu'occupe la crainte de Dieu et de son nom ? N'avons-nous pas trop apprivoisé l'identité divine ? Ne l'avons-nous pas trop réduite à notre ressemblance ? Ne nous arrive-t-il pas parfois d'infliger nos si et nos conditions à Dieu ? Ne nous arrive-t-il pas enfin de lui tendre nos très indispensables mains pour lui éviter des chutes ? Et si là, ce matin-là, ben voilà, tout de suite, nous acceptions avec déférence et humilité de reconsidérer le caractère très saint et très sacré du nom que nous invoquons, que nous avons coutume d'invoquer. Au fond, ne sommes-nous pas nous aussi les accompagnants du char qu'est l'Église ? Ne faisons-nous pas partie du voyage qui ramène l'Église vers la Jérusalem céleste, puisque c'est là que sera sa place et puisque c'est là qu'est notre destination commune. Alors certes, il est possible en chemin que nous ayons à nous émouvoir, de constater que telle ou telle de nos églises, ou cette église, prend du gîte et se met à vaciller. Il peut même arriver que la croyante en péril devant une impasse, une turbulence, une chute, nous soyons tentés d'avoir des gestes hâtifs ou d'émettre des si, des conditions et des engagements inconsidérés. Si tel est le cas, n'oublions pas que Dieu ne tombe pas. Alors, où en suis-je ? Qui suis-je ? Anne ou Jephté ? L'indispensable Ousa ou l'anti-héros Aïo ? Dans l'attitude inconsciente d'un interlocuteur pétri de conviction ? Ou dans la crainte, la déférence et l'humilité d'une créature qui se tient au pied du maître qui seul décide. L'extraordinaire écrivain Georges Bernanos écrit dans son roman Journal d'un curé de campagne la chose suivante. Il fait dire à son personnage, un personnage très subversif qui s'appelle l'abbé de Torcy, une phrase que ni vous ni moi ne sommes prêts d'oublier. L'abbé de Torcy dit, vous êtes prêts ? On ne peut pas empêcher un bouc de sentir le bouc. Quelle que soit l'opinion que j'ai de moi-même, quelle que soit ma place ou quelle que soit ma désignation dans le cadre de l'Église, ma condition ne sera jamais autre que celle d'une brebis dans le troupeau que conduit le Seigneur. Conclusion. Pour le chrétien, l'engagement à prendre ne doit pas dépendre de l'émotion ou du ressenti du moment. Son choix doit impérativement répondre à la question « Mon engagement est-il oui ou non à la gloire de Dieu ? Glorifie-t-il son saint nom ?» Quant au geste du chrétien, il ne doit pas être prisonnier de l'urgence de telle ou telle situation. Il doit avoir le temps de se dire « Dieu ne tombe pas ». Il doit avoir le temps de répondre à la question « Mon geste est-il en adéquation avec la crainte que je dois à Dieu ? Glorifie-t-il son saint nom ?» Souvenons-nous du tout début de la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, que ton nom soit sanctifié. Eh bien, ce matin, c'est ce que nous voulons, chacune et chacun, emporter en résonance dans nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je vous invite.